Radio Okapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le 32e sommet de l'Union africaine se clôture ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. La RDC est représentée par son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a prononcé son tout premier discours devant ses pairs. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste volatile dans le groupement Kamuronza en territoire de Masisi. Pour cause, un groupe armé actif installé depuis plusieurs mois au village Karenga menace la sécurité des habitants. L'invité de ce journal est le doyen des défenseurs judiciaires au Kasaï central. André Moulumba salue le bon fonctionnement de la gratuité de l'assistance juridique par cette cellule. Et je venais de le dire tantôt, le 32e sommet de l'Union africaine s'est clôturé ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie. La République démocratique du Congo est représentée par son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui participe pour la première fois à ce sommet. Le chef de l'État congolais va rencontrer aujourd'hui les ressortissants congolais installés à Addis Abeba. Mais déjà hier, Félix Tshisekedi a prononcé son premier discours devant ses pairs et a fait remarquer que la RDC ne peut pas continuer d'être victime de ses ressources naturelles. Il met en garde ceux qui soutiennent les tentatives qui visent à déstabiliser la RDC. Félix Tshisekedi promet toujours qu'à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ses ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Hier toujours, il s'est entretenu avec certaines personnalités, notamment le chef de l'ONU, Antonio Guterres, la patronne de la diplomatie de l'Union européenne et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire dans les groupements Kamuronza en territoire de Masisi reste volatile malgré l'accalmie constatée depuis environ une semaine. En effet, un groupe armé actif qui s'est installé depuis plusieurs mois au village Karenga menace la sécurité des habitants. Quelques militaires FARDC sont déployés dans cette zone pour mettre en déroute ces malfrats, mais les défis sécuritaires demeurent. Freddy Bikumbi revient de la zone, il nous fait le point.
Si le calme apparent règne ces derniers temps dans le groupement Kamuronza, les habitants vivent la peur au ventre. Au village Kingi et Kimoka, situé sur la route allant vers Kichanga, nos sources affirment que des jeunes gens du milieu qui travaillent dans des fermes sont munis d'armes à feu et ce sont eux qui insécurisent les milieux. Aussi, dans le village Karenga, à la lisière du parc de Virunga, un groupe armé a instauré une administration parallèle qui échappe aux autorités légalement établies. Une autre crainte pour ces habitants est que les positions habituelles des FARDC à la colline Karara et à Luonga sont dégarnis, laissant libre champ aux malfrats d'opérer en toute quiétude. Après les attaques de janvier contre les civils et contre les casques bleus de la MONUSCO ainsi que les pillages du centre de santé armé du salut avec viol des femmes, la 34e région militaire a déployé il y a une semaine quelques militaires FARDC dans cette entité. Une autre inquiétude des habitants du groupement Kamuronza, c'est du côté de la justice militaire au niveau des Goma. Bon nombre de responsables des structures de la communauté de Kamuronza constatent que des suspects arrêtés sont vite relâchés et recourent aux représailles une fois retournés dans leur milieu. Goma. Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Et puis, les secteurs opérationnels Sokola 2 au sud du Sud Kivu appellent tous les groupes armés locaux actifs dans la zone de déposer sans délai leurs armes auprès des unités de FARDC les plus proches, faute de quoi l'armée régulière les y contraindra. C'est l'essentiel du message lancé ce lundi à travers les radios communautaires locales dans les moyens et au plateau d'Ouvira. Notez que c'est depuis 5 jours que le commandant de Sokola 2 a lancé des opérations militaires contre tous les groupes armés locaux et étrangers dans les hauts plateaux d'Ouvira. Des détails avec Fiston Goma Mayabala.
Le commandant des forces indique dans son communiqué avoir pris des dispositions spécifiques idoines pour accueillir les combattants qui se rendent au FARDC. Ils sont enregistrés au fur et à mesure et leurs desiderata sont pris en compte. Depuis le mois de janvier dernier, le général Otropokame Maimai Ebola Mapigano, ex-compagnon de lutte de Yakutumba, s'est annoncé dans le haut plateau de Mikenge, en territoire de Mwenga, avec 300 combattants pour la reddition au FARDC. Trois autres groupes armés locaux actifs dans les moyens plateaux du secteur de Tanganyika en territoire de Fizi se sont annoncé à la MONUSCO à Lucinda pour leur reddition. Mais dans le territoire d'Uvira, la plupart des groupes armés locaux sont coalisés aux forces et groupes armés burundais et rwandais. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2, le général David Rugaï, demande par ailleurs à ces groupes armés étrangers actifs dans sa zone de responsabilité de quitter sans délai les sols congolais, faute de quoi les FRDC les y contraindront par la force. Il souligne que ceux de ces groupes qui veulent quitter bénéficieront du concours de l'armée pour accompagner leur retrait selon des dispositions spécifiques. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Et province du Tanganyika, à présent, une délégation mixte MONUSCO et autorité territoriale de Kalemie vient de passer 2 jours dans la localité Kisonja, à plus ou moins 65 km de Kalemie, sur l'axe Bendera. Dans ce secteur, il y a peu encore, les communautés Holoholo et Toa d'un côté s'affrontaient à la communauté Bafulero, originaire du Sud Kivu, de l'autre côté. L'insécurité qui en a résulté a découragé les usagers de cette route nationale numéro 5, y compris les humanitaires. Depuis le 26 janvier dernier, la MONUSCO a déployé à Kisonja une unité de combat. Objectif, favoriser le dialogue entre les communautés et rétablir l'accès aux humanitaires. Reportage, Expedi Mambamoubi.
À Kisonja, l'unité statique de combat déployée par la MONUSCO comprend 55 casques bleus indonésiens. Ils sont équipés de 6 véhicules, soit un blindé léger, un camion de transport de troupes, 3 pick-up et un camion citerne. Depuis le 26 janvier qu'ils sont installés à Kisonja, les soldats et la section des affaires civiles de la MONUSCO ont réussi à renouer le dialogue entre les communautés Toa, Holoholo et Bafulero. Les casques bleus indonésiens ne sont toutefois pas les seuls à sécuriser Kisonja et ses environs. Les FRDC y sont également déployés. L'administrateur de territoire de Kalemie est venu également sensibiliser la population, Bernard Bokolanganya.
Nous avons envie de voir tous les frères et sœurs qui sont dans la brousse, qu'ils viennent déposer les armes de deux. Nous voulons sur l'axe Kalemie-Bendera, qui est une circulation libre des personnes et de leurs biens.
Déjà, les efforts des uns et des autres commencent à payer. Sur la route Kalemie-Bendera, quelques camions et mototaxis se sont remis à circuler. De retour de Kisonja, Expedi Mwambamoubi, Radio Okapi.
Et puis, en Ituri, des cas de mutilation des corps des femmes sont devenus récurrents dans certaines entités de cette province. Le dernier cas s'est produit le week-end dernier en territoire de Mahagi, où des habitants ont découvert la dépouille d'une dame dont certains organes ont été emportés par des inconnus. D'autres cas ont été rapportés à Nyarambi, dans la même entité, et à Ariwara, en territoire d'Arou. La société civile locale dénonce cette pratique qui commence à prendre l'ampleur dans la zone. Jean-Claude Lokidile.
Selon la société civile de Mahagi, ce drame est survenu à Ouri, un village situé à 19 km de Mahagi Centre. Une dame âgée d'une quarantaine d'années a été abattue par des inconnus. Son corps a été retrouvé le matin, portant des traces de blessures. D'après la même source, sa partie génitale a été emportée par ses bourreaux. Un mois plus tôt, un autre cas similaire a été signalé à Moro, dans la localité de Nyarambe, toujours en territoire de Mahagi. Dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, le corps sans vie d'une femme amputé de son sexe a été découvert à Riwara, un centre de négociation situé à 45 km d'Arou Centre. Hilaire Onenchan, président de la société civile de Mahagi, pense qu'il s'agirait d'une pratique occulte et interpelle les services compétents à traquer les présumés auteurs.
C'est comme s'il y a quelqu'un qui achète ça et il part, je ne sais pas, vendre ou comment vers l'Ouganda. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que la justice puisse un peu quand même faire son travail afin de mener des enquête pour que les auteurs soient retrouvés et punis.
Le commandant de la police en territoire de Mahagi indique que ces éléments déploient des efforts pour appréhender les auteurs de ces crimes. Selon lui, ces personnes traversent la frontière pour gagner l'Ouganda après avoir commis ce forfait. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
L'université de Lubumbashi a fait une mise au point hier dimanche après des incidents survenus il y a quelques semaines sur son site. D'après le directeur de cabinet directeur qui s'est exprimé devant la presse ce week-end à Lubumbashi, l'université fonctionne normalement après ces incidents et les étudiants ont trouvé satisfaction à leurs revendications. Le point avec Paul Mounanga.
Le professeur Germain Ngoïtibambe a rappelé que les étudiants revendiquaient le rétablissement de l'eau, du courant électrique ainsi que la fixation des frais d'études à 900 francs congolais, les dollars américains. Toutes ces revendications ont trouvé des réponses favorables. Il faut noter cependant que le soulèvement des étudiants a occasionné une semaine de retard dans les calendriers académiques. Mais il rassure que le retard sera comblé et que le calendrier académique sera respecté. Le professeur Germain Ngoïtibambe a souligné en outre que le recteur de l'université de Lubumbashi a rencontré samedi dernier les étudiants finalistes du deuxième cycle. Gilbert Kishiba les a appelés à la conscience pour qu'ils se mettent au travail de manière à être prêts pour affronter les examens de premier semestre et préparer leurs travaux de fin d'études à défendre au temps marqué. Et c'était aussi pour se rassurer du bon climat qui règne actuellement à l'université de Lubumbashi. Signalons aussi que le directeur de cabinet du recteur a annoncé que l'université de Lubumbashi condamnait les actes de vandalisme contre les biens de l'université perpétrés par certains étudiants qui étaient accompagnés par d'autres manifestants lors de leur soulèvement. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et parlons santé avec ces mesures du maire de la ville de Butembo au Nord Kivu pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola. Alors que la maladie vient de franchir les seuils de 500 décès dans l'Ituri au Nord Kivu, c'est notamment des examens médicaux pour tout cas de décès dans la communauté. Et si les tests s'avèrent positifs au virus, la maison du défunt sera désinfectée, ses proches et autres contacts devront être vaccinés. Le maire Sylvain Kanyamanda prévoit aussi un enterrement sécurisé de la victime afin de couper la chaîne de transmission.
L'invité.
Je le disais en titre, au Kasaï central, les douaniers et les défenseurs judiciaires saluent le bon fonctionnement de leur cellule d'assistance juridique gratuite. Invité des Radio Capi, André Moulumba, affirme que sa structure a répertorié en 3 mois plus de 200 dossiers dont une cinquantaine ont été déjà fixés devant les tribunaux. Il répond aux questions de Blaise Nongala.
Bonjour monsieur André Moulumba.
Bonjour monsieur le journaliste.
Les défenseurs judiciaires, après le TGI Kananga, ont mis en place une cellule d'assistance juridique gratuite. Quel bilan dressez-vous de cette structure 3 mois après?
La cellule d'assistance gratuite CAG en sigle a enregistré plus de 200 dossiers présentement. Il a traité 57 dossiers, c'est-à-dire les dossiers qui sont déjà envoyés en fixation devant les tribunaux. Dans ces 57 dossiers, il y a eu 11 prononcés. Avec ces 11 prononcés, il y a eu 9 acquittements de condamnations. Nous disons que le bilan est positif parce que avec 200 dossiers, nous avons déjà 57 que nous avons plaidés. D'autres dossiers sont encore en souffrance. Même devant les tribunaux, il y a peu de magistrats. C'est pourquoi il n'y a pas accélération des dossiers compte tenu du nombre de magistrats.
Alors, en quoi consiste exactement le travail de cette cellule d'assistance?
La cellule d'assistance gratuite consiste à assister les prévenus gratuitement, c'est-à-dire les indigents, tant devant les bureaux de magistrats, instructeurs, ou soit devant les tribunaux. Alors, la cellule d'assistance gratuite a constaté que parmi les prévenus, parmi les inculpés, il y a ceux qui sont indigents, qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas comment se défendre. C'est comme ça que le corps des défenseurs judiciaires a pris l'initiative de créer la cellule d'assistance gratuite pour assister ces indigents.
Que doivent faire les justiciables de la province du Kasaï central pour bénéficier des services de cette organisation?
Les justiciables de la province du Kasaï central doivent recourir à cette cellule, c'est-à-dire dans le corps de défense judiciaire près le tribunal de grande instance de Kananga. Ils vont bénéficier de l'assistance gratuite. Nous avons notre bureau qui est derrière le parquet général. Ou soit, ils peuvent nous trouver par notre coordonnée téléphonique qui est 09 92 69 96 27. Si quelqu'un a besoin d'être assisté gratuitement, il recourt à nous, nous allons l'assister.
En 3 mois, quelles sont les difficultés rencontrées?
Nous avons rencontré d'abord les difficultés financières. Nous n'avons pas de moyens pour nous déplacer. Nous n'avons pas de moyens pour assister le prévenu d'une manière juridique, c'est-à-dire donner les frais de procédure par exemple. Il y a les frais de procédure qu'on va mettre en place pour soit aller signifier la partie civile qui n'est pas sur place. Lorsque le dossier passe devant le tribunal de grande instance, soit devant les tribunaux, la partie civile n'est pas sur place. Alors, il faut le moyen de transport pour remettre aux huissiers qui vont maintenant notifier les dates d'audience aux parties. Alors, à ce moment-là, tant que le prévenu n'a rien, c'est le corps maintenant qui va se démener pour prendre le peu de moyens qu'il a pour mettre à la disposition des huissiers pour aller maintenant instrumenter. Voilà, c'est une difficulté. Tantôt là, pour se déplacer, aller aux audiences, il faut des moyens de transport. Par exemple, prendre le carburant, mettre dans les engins que nous avons, par exemple, dans des motos, dans le véhicule, pour nous amener là où les audiences se tiennent. Voilà un peu de difficulté là. Acheter les papiers, lorsque nous plaidons les affaires, il faut aussi faire des notes de plaidoirie. Tout ça, ce sont des difficultés que nous sommes en train de connaître parce que nous n'avons pas les moyens suffisants pour assister ces gens-là.
Avez-vous alors un appel à l'endroit des autorités politiques, voire judiciaires de la région?
Évidemment, nous demandons aux autorités de la place, ainsi qu'aux partenaires nationaux qu'internationaux, de nous venir en aide parce que la cellule d'assistance gratuite est au service de la population. Si les partenaires nous viennent en aide, nous pensons que les indigents auront de bénéficier beaucoup d'assistance de notre part pour qu'ils obtiennent la liberté parce que tout le monde, quel que soit le fait qu'ils leur sont reprochés, mais ils ne sont pas du tout coupables parce que la loi dit que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'au prononcé de la décision du tribunal.
Monsieur André Moulouba, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions.
C'est moi aussi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et voilà donc à 12h15 à Kinshasa, 13h15 à Uvira. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.